Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Toutes les deux semaines, on vous fait une sorte de petit pêle-mêle des choses les plus importantes qui se sont passées dans l'industrie du gaming. Et on espère qu'en plus, on réussit à vous faire passer un bon moment pour que ça soit un petit contenu agréable toutes les deux semaines dans vos oreilles. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui se joint à moi Jean-Noël de Papa, à quoi tu joues ? Donc, on va parler que de jeux pour enfants, c'est ça ? C'est le programme ?
Ouais, bah écoute, bonjour Patrick. Bah oui, c'est ça. Je viens d'aller chercher mes Pokémon et là, je te rejoins.
Donc, tu as succombé à la mode des Pokémon Go. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des trucs pour enfants. Hein. On va quand même essayer d'infiltrer des petits trucs sur les jeux de combat. On a des infos sur Nintendo. On a plein d'autres petites choses aussi, évidemment. Et on va également parler de Pokémon Go, je pense que c'est inévitable. mais avant ça, d'abord merci à Jean d'être avec nous.
Ah bah je t'en prie, ça me fait plaisir.
Et puis avant ça, on va quand même parler un petit peu de trucs de vrai, de trucs de PCiste et de matériel, parce que bon, c'est bien gentil les histoires de Pokémon et de petites boules qu'on envoie sur des petites bestioles, mais il y a aussi des choses importantes dont on doit parler dans la vie, et les cartes graphiques, ça en fait partie. Donc, est-ce que tu es un joueur PC convaincu qui construit ses machines à 2000 euros ou pas du tout, Jean ?
Bah, écoute, à moitié, j'étais très consoleux et là, petit à petit, j'emmagasine l'argent pour pouvoir me faire un PC gaming, un vrai PC gaming, parce que pour l'instant, je joue sur mon Mac, sur Bootcamp.
Et voilà.
Et bizarrement, là, depuis quelques semaines, je m'intéresse de plus en plus au matériel.
Ah bah écoute, très bien. Oui, quand je dis ça marche plus trop bien, si ça marche bien, mais c'est juste que les Mac, effectivement, les derniers modèles sortis sont généralement pas très performants au niveau de la 3D. Donc c'est vrai qu'il y a...
Bon, je joue à Witcher 3 quand même, hein, mais bon, voilà.
Oui, ouais, t'as quoi comme Mac d'ailleurs ? J'imagine que c'est un truc avec une carte graphique dédiée.
Ouais, j'ai un Retina, pas les tout derniers. Ceux de juste avant.
Ouais, c'est ça l'ironie, c'est que les tout derniers en fait sont passés aux cartes graphiques intégrées. On en parlait déjà, mais aux cartes graphiques intégrées Intel, qui sont parfois assez peu puissantes, voire moins puissantes que des cartes graphiques précédentes, qui étaient des cartes graphiques dédiées, même sur les portables. Donc, je ne sais pas si ton modèle c'est le cas, mais bon, enfin, ça fait tourner quelques petits trucs, mais
j'en suis quand même globalement content pour. Enfin, pour l'instant, je joue encore à GTA, à Witcher 3, donc je me plains pas.
D'accord. Bon, effectivement, Bootcamp vient bien t'aider là-dessus. Mais si vous voulez plus simplement avoir un PC qui tourne bien, mais vous n'êtes pas non plus milliardaire, il y a des cartes graphiques qui ont été annoncées, ce qui devrait être disponible d'ailleurs, si je ne m'abuse, ou très bientôt. Enfin, l'AMD Radeon RX 480 est une carte graphique qui devrait vous faire être suffisamment puissante pour faire de la réalité virtuelle en résolution 1440, qui commence à être la résolution préférée des gamers, un petit peu plus élevé que la HD classique, et qui coûte autour de 200-250 euros. Et pour ne pas rester en reste, Nvidia a annoncé la GTX 1060, qui est une version donc de l'architecture des cartes dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, la 1070 et la 1080, mais une version un petit peu moins chère, un petit peu plus en retrait, qui a des performances vraiment intéressantes aussi, un petit peu visiblement au niveau de la RX 4080 d'AMD et qui coûte aussi autour de, allez, entre 200 et 300 euros. Donc c'est quand même un prix conséquent, hein. C'est presque le prix d'une console complète quand on vient du monde des consoles. Mais ça donne des capacités quand même très impressionnantes pour les standards qu'on a sur PC avec ce genre de prix généralement. Donc il faudra attendre les tests des indépendants. Qui devrait arriver bientôt parce que les cartes sont disponibles en juillet. Mais d'ailleurs, les premières AMD sont disponibles, mais je crois qu'il faut mieux attendre les cartes Nvidia pour faire son choix au cas où. Mais voilà, donc c'est deux cartes assez solides à des prix de milieu de gamme de cartes graphiques pour le prix général sur PC. AMD est généralement pas compétitif sur le très haut de gamme comme les 1070 ou 1080 plutôt, mais sur ce bas de gamme ils sont assez bas de gamme, milieu de gamme, mais c'est bas de gamme en carte graphique, hein, bas milieu de gamme, ils sont assez compétitifs, donc peut-être une solution. Je crois que sur cet ordre de prix le choix finalement revient à une préférence de marque. Si on préfère AMD, on va aller vers AMD. Je crois que c'est à peu près équivalent, à peu de choses près. Moi, j'ai une petite préférence pour Nvidia. Personnellement, j'ai d'expérience, c'est plus universel. Enfin, les deux fonctionnent, mais je sais pas, j'ai des drivers qui me font plus défaut, ce genre de choses. C'est pas que j'ai eu une Radeon aussi pendant longtemps, elle fonctionnait bien aussi, mais je sais pas, j'ai une petite affection pour Nvidia, donc moi, je crois que je me dirigerai plus vers une GTX, mais les deux se valent à peu près. Donc, ouais. Voilà, c'est le genre de choses que tu regarderais pour ton PC.
Exactement, c'est pour ça que je te dis que je m'intéresse au matériel, parce que moi ça faisait une petite dizaine d'années que j'avais complètement lâché le marché de la carte graphique parce que j'y comprenais plus rien, j'avais plus le temps de m'y intéresser, et là du coup j'ai regagné de l'appétence pour ce marché parce que je me dis voilà, j'ai plus besoin de me couper un bras pour la carte graphique, de me couper l'autre bras pour avoir un bon pros, etc. Et du coup je peux garder mes bras pour jouer, donc c'est l'appétence des cartes graphiques qui était devenue un marché mais vraiment hyper complexe, parce que du coup toutes ces appellations qui correspondaient pas forcément à la réalité des choses, et des fois ils renommaient juste une carte pour les revendre sous un autre, enfin
ouais, ça se fait encore,
ouais mais du coup là on a une vraie référence avec un prix abordable. Tu dis oui, c'est quasiment le prix d'une console, mais pour quelqu'un qui veut mettre un peu plus que le prix d'une console, mais qui a pas une pratique non plus hardcore, c'est un compromis qui m'intéresse beaucoup.
Et c'est vrai que c'est une offre, on a dans les cycles de cartes graphiques des moments plus ou moins confus. Il y a des moments où effectivement les technologies stagnent un peu, donc ils renomment des trucs, ils les font un peu moins cher, ils font la même technologie en gravure plus fine ou ce genre de choses, qui est toujours une étape. Mais là, on a une sorte de clarification de l'offre. Il y a des moments comme ça où ça arrive tous les 2, 3, 4 ans, peut-être plus tous les 4 ans que tous les 2 ans d'ailleurs. Et là, on est un petit peu à ce moment-là où c'est vraiment tout qui se réunit pour que ça soit une super occasion, un bon moment pour acheter une carte ou pour changer de carte. Donc,
parce que d'autant qu'avec ce prix-là, pour cette performance-là, je pense qu'il va forcément falloir revoir toute l'offre pour s'aligner, pour qu'il y ait une cohérence entre prix et performance, quoi.
Ouais. Donc voilà, si vous cherchez une carte à bon prix, ça sera peut-être une Radeon RX 480 ou une GTX 1060. Je recommanderais quand même peut-être à moins que vous vouliez le faire vraiment pendant l'été, mais peut-être d'attendre la rentrée. Je pense que les prix de ce genre de trucs se stabilisent un petit peu plus encore quand la première salve de demande est passée et que au bout d'un ou deux mois. Donc un petit conseil. Bon, voilà, l'introduction passée, on va pouvoir vraiment parler du phénomène de ces dernières semaines, à savoir Pokémon Go, qui a déferlé sur le monde comme une sorte de tsunami de l'été. Je parle déjà au passé, mais c'est invraisemblable le succès de ce truc. Et je t'avoue que moi, je reste un poil extérieur à toute cette histoire, parce que j'ai jamais été un fan de Pokémon. J'ai l'impression que ma génération, moi en tout cas, j'étais un petit peu trop vieux au moment où c'est devenu populaire, et je pensais à ça comme un truc pour les enfants, tu vois, c'était genre, non, moi, je suis cool, je joue à Street Fighter. Et c'était pas mon truc. Et donc, je rentre pas dans le phénomène. Toi, je crois que tu t'y es mis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu y retrouves?
Écoute, j'ai le même profil que toi. Le seul vrai contact que j'avais eu avec Pokémon depuis que c'est sorti, c'est justement quand c'est sorti et j'ai acheté Pokémon Rouge à ma petite sœur sur Game Boy et c'est tout.
Toi, tu n'y avais pas joué en fait.
Non, du tout. Alors j'avais essayé à une époque de jouer sur un émulateur et j'ai tenu 10 minutes, mais franchement, j'ai jamais eu aucune appétence pour Pokémon.
Et pourtant, Pokémon Go te parle alors ou...
Oui, parce que, enfin, donc, il y a toute la hype, déjà, hein, donc, depuis qu'il est sorti, j'ai résisté, je regardais les trucs, et puis, plutôt
alors,
que de me saouler.
Il n'est pas encore officiellement dispo en France, hein, faut faire un tout petit, ça prend 2 secondes, mais il faut faire un tout petit truc pour la voir, mais ouais.
Voilà. Et plutôt que de, tu sais, d'habitude quand il y a une hype, ça te saoule au bout d'un moment. Là, je trouvais que la hype était plutôt rigolote parce que il y avait plein de petites anecdotes rigolotes en marge des anecdotes tristes et dramatiques. Il y avait plein de petites anecdotes très rigolotes et je trouvais que il y avait un état d'esprit sympa qui se dégageait de ça, et je me suis dit, c'était samedi dernier, je me suis dit, oh, tant pis, je me crée mon mon compte US, et puis voilà. Et j'ai téléchargé Pokémon, et je suis sorti de la maison dans les 15 minutes qui ont suivi, parce que j'avais lu sur Internet les trucs pour avoir le Pikachu en starter, donc j'ai dû sortir de chez moi et aller à 300 mètres de chez moi.
Tu peux nous dire ce que c'est le truc pour avoir le Pikachu en starter? Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés.
Alors, c'est très très simple. Au départ, comme tout bon dresseur de Pokémon, on vous propose d'attraper votre premier Pokémon, donc soit le Bulbizarre, le Dracaufeu ou le dernier, le Carapuce, je crois, c'est ça.
Entre parenthèses, je dois faire une petite parenthèse. C'est marrant avec tous ces noms parce que moi je les connaissais pas parce que j'y jouais, comme je le disais, mais je les connaissais un petit peu parce que mon ami Danny, que les gens connaissent de d'Azeroth.fr, travaillait chez Nintendo à l'époque avec d'autres amis, Julien et d'autres. Ils ont traduit, c'est eux qui ont traduit les noms des Pokémon. Donc tous ces noms hyper emblématiques, j'ai un de mes meilleurs amis qui a participé à l'équipe de traduction. Donc ça me fait toujours un petit truc au cœur quand j'entends les noms comme Bulbizarre, Dracaufeu, etc., etc. Donc pardon, voilà, parenthèse refermée. Continue.
Et donc. Ces 3 Pokémon, et ben, si vous voulez le Pikachu comme pour faire dans le dessin animé, eh bien il suffit de partir physiquement et d'avancer, et donc au bout d'un moment les Pokémon sont plus à portée, les 3 Pokémon qu'on vous propose ne sont plus à portée, et donc ils réapparaissent à notre portée, et au bout de 3, 4, 5 fois, eh ben il y en a plus 3, il y en a 4 avec Pikachu, et donc on peut récupérer le Pikachu comme ça.
C'est une petite astuce qui est prévue par le jeu, finalement, pour faire sortir les gens, j'imagine. Ça a l'air d'être...
Écoute, je sais pas pareil si ça va rester. Je sais pas si c'est juste un petit clin d'œil de départ. C'est pour ça que je me suis quand même empressé. Je me suis dit, il y a une occasion d'avoir un Pikachu parce que c'est un Pokémon qui est visiblement assez rare. Donc voilà. Et puis, donc voilà, je suis sorti de chez moi. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Alors, c'est quand même assez limité pour l'instant, hein. Ça ressemble plutôt à de la collectionnite avec un petit peu de compétition, mais il y a un potentiel énorme. Tout est fait pour vouloir en faire toujours plus, mais sans jamais te tenir par la main en disant vas-y, fais ça. C'est toi qui as envie de le faire à chaque fois. T'es là, tu fais bon, allez, je rentre. Ah, mais non, je peux pas là. Il y a Anne.
Ouais, c'est marrant, on a vu ces phénomènes, ces vidéos avec genre quand il y a un Pokémon rare qui apparaît à Central Park, il y a des dizaines de personnes qui déferlent sur le parc au milieu de la nuit, il y a des gens qui ont fait des trucs un peu dangereux pour des gens qui vont sur les propriétés privées d'autres personnes. Enfin, effectivement, ça a l'air d'être un phénomène assez incroyable. C'est un truc qu'on a jamais vu en fait, je crois, un truc tout à fait comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu se produire
alors,
de cette
nouveau,
manière.
Nouveau peut-être pas parce qu'il y avait Ingress quand même.
Oui, oui.
Ouais, voilà. Voilà, il y avait Ingress, je me suis intéressé aussi à Ingress, qui avait une très très forte communauté, qui était sympathique, mais là j'ai l'impression que le capital sympathie du truc, mais c'est une explosion quoi.
Et c'est un petit peu là que je j'émets quelques doutes sur la longévité de ce Pokémon Go, parce que à mon sens, le phénomène qui est invraisemblable hein, est beaucoup plus lié à la popularité de Pokémon que au plaisir du jeu lui-même. Et tous les gens qui disent ah bah oui, moi je sors pour aller quand je fais ma promenade quand je vais acheter les croissants pour ma femme par exemple, je sors pour prendre mes Pokémon du même coup. Je crois qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, les gens vont plus le faire quoi. C'est pas un truc de jeu, c'est juste aller marcher dans la rue. Si les gens aimaient aller marcher dans la rue, ils iraient marcher dans la rue tout seuls. Tu vois, il y a Ingress qui avait effectivement une communauté qui existait, mais ça veut dire peut-être que la communauté va rester, va continuer à exister, mais on n'en entendra plus autant parler qu'aujourd'hui. Je veux dire, la valeur boursière de Nintendo, le prix de l'action est monté de genre 50% en une semaine, alors qu'en plus ils ont qu'un tiers de la société Pokémon Company. Bon, ils ont les jeux exclusifs donc ça leur sert, mais ils ont un tiers de Pokémon Company et ils ont qu'une petite partie des bénéfices de cette sortie qui est gérée par Niantic, la société qui avait fait Ingress justement. Ouais. Et en plus, enfin, il y a plus de Pokémon Go installés en un week-end sur les téléphones Android aux US qu'il y a de Tinder installés sur les téléphones Android, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et à mon sens, enfin, la grande question, c'est est-ce que ça va durer? Moi, je crois pas que ça va durer. Mais pas comme ça. Comme ça, c'est évident. Mais il y a des gens qui disent oui, c'est le succès de la réalité augmentée. C'est des jeux qui font sortir les gamers, c'est des machins. Et moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ça va mourir au bout de 2-3 semaines, quoi.
Je me suis posé la question aussi. Je me suis très très vite posé la question, même avant de l'installer même. Et il y a du oui, il y a du non. Parce que là, pour l'instant, alors ouais, il y a l'effet hype, il y a l'effet Pokémon, c'est la licence qu'on connaît tous, et c'est sympa de retrouver tout ça. Et ok, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord de dire que si ça reste comme ça, effectivement, dans 4 semaines, on a la moitié des gens qui l'utilisent plus. Et voilà.
Mais seulement. Même plus. Moi, je crois qu'il y aura genre, je sais pas, 5 ou 10% de gens qui vont continuer à l'utiliser comme
ouais, mais...
il y avait sur Ingress. Et puis
ouais,
la
mais,
majorité.
C'est là t'es en train, je pense hein, t'es en train aussi de sous-estimer une partie des joueurs qui est vraiment les jeunes. Tous ceux que moi je côtoie, les débuts d'ado là, les 12-15 ans, qui à la rentrée scolaire, les cours de récréation, je pense que il va y avoir du portable qui va se mettre sous le manteau pour parce que il y a aussi un vrai public là-dedans et que là pour l'instant ils sont en vacances, ils sont chacun de leur côté, mais quand ils vont se remettre ensemble, du coup c'est, voilà, il y a ça. Mais
ouais, mais pour les jeunes, en fait, pour les jeunes, tu vois, Pokémon n'a jamais arrêté d'être un phénomène. Ça me ouais. surprendrait pas plus que ça, mais c'est juste que là, on a des gens de tous les âges et des gens qui, aux États-Unis, en voiture, s'arrêtent toutes les 10 minutes pour choper un Pokémon, des gens qui vont marcher une demi-heure de plus pour sortir le chien pour choper plus de Pokémon ou pour faire éclore leurs œufs. C'est tout ça, à mon sens, qui va pas rester, tu vois.
Ben, je sais pas, parce que là, en l'état actuel, il y a 130 Pokémon, je crois. Or, des Pokémon, il y en a, je sais plus, 700, un truc comme ça.
Ouais, aujourd'hui, au début, c'était 151 donc, dans le premier jeu, et puis
ouais,
depuis,
voilà,
ils en ont ajouté plein.
Et il y a un potentiel de développement vraiment énorme. Et puis là, en plus, ils ont tout intérêt à faire ce qu'il faut pour justement garder cette base de joueurs, parce que là, ils commencent à se tramer la entre guillemets publicité, donc c'est-à-dire les emplacements de Pokémon sponsorisés. qui serait en passe d'arriver d'ici quelques semaines.
Et
donc
déjà
quand
ils font
les commerçants on paye Niantic et puis on dit voilà je voudrais un Pokémon dans mon magasin etc.
Ouais, et déjà l'app est l'une des plus lucratives dans tous les stores du monde. Il est possible de faire des petits achats in-app, mais en fait, bon, peut-être pour nuancer un tout petit peu ce que je dis, ça va se jouer sur le gameplay à mon sens. C'est vraiment le gameplay qui est le cœur de la chose. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait un gameplay vraiment sensiblement intéressant, un petit peu comme il n'y en avait pas dans Ingress, tu vois, c'est juste le fait de sortir, d'aller choper un truc et
oui, voilà,
c'est ça. Et si ça reste ça, à mon sens, ça va être forcément un petit peu plus gros qu'Ingress parce que c'est Pokémon. Mais enfin, Ingress, à part les fous d'Ingress, on n'en entendrait jamais parler. C'est un jeu qui était disponible depuis très longtemps. On en a parlé au début parce que c'était intéressant comme concept. Mais voilà, c'est pas aller plus loin. À mon sens, en gros. Ça montre beaucoup plus la force de la licence Pokémon, et c'est pour ça que Nintendo, que les actions Nintendo sont autant montées, parce que tout le reste des sociétés impliquées dans ce phénomène, en fait, sont des sociétés privées. Donc les investisseurs ne peuvent pas investir dans qui que ce soit, excepté Nintendo, et c'est pour ça que cette action monte. Mais ça montre beaucoup plus la force de la licence Pokémon que la force de la réalité augmentée, ou des jeux où tu vas sortir, où tu vois, à mon sens... Enfin, moi, c'est l'enseignement que j'en tire. Peut-être qu'au final, je me tromperai. Et peut-être qu'il y aura un élément de gameplay qui va faire que les gens vont finir par s'y mettre. Mais à mon sens, si on peut pas jouer assis confortablement dans son canapé ou en train de prendre son café, je vois pas le truc durer. Enfin, encore une fois, ça sera toujours là parce que Ingress était toujours là et donc ça va forcément faire mieux qu'Ingress. Mais je pense pas qu'on en parlera beaucoup... D'ici quelques semaines, ça sera déjà beaucoup plus calme, quoi.
Alors, il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que dans le carnet de développement donc de Pokémon Go, les choses qui vont implémenter très très vite, c'est les interactions entre joueurs, parce que pour l'instant, à part échanger des Pokémon, tu peux pas faire grand chose. Prendre des arènes, tu peux combattre les Pokémon dans les arènes, mais tu peux pas faire grand chose. Or, la sève de Pokémon, c'est vraiment de devenir un maître Pokémon, c'est-à-dire que tu récupères tes Pokémon et tu vas effectivement combattre d'autres joueurs. Et ils ont là encore tout le futur intérêt du jeu, ça va être dans ce système d'affrontement, parce que et c'est pour ça que je te parlais des cours de récréation, parce que là aussi tu parles de réalité augmentée, alors oui, c'est de la réalité augmentée, mais tu vois, la réalité augmentée aujourd'hui, on la voit, on a un écran. On le met devant nos yeux et puis il y a quelque chose qui se met en plus sur ce qu'on voit. Là, à mon sens, comme je l'ai ressenti, ça va un tout petit peu plus loin parce que c'est comme si tu savais qu'il y avait un monde parallèle que tu ne voyais pas, un monde invisible que tu ne voyais pas.
Ouais, comme avec Ingress finalement.
Ben non, parce que Ingress, tu n'avais pas cette fenêtre. Tu avais ton téléphone, tu voyais un plan et tu te baladais sur le plan. Là, c'est peut-être tout con ce que je vais dire, hein, mais le fait de tu vois un Pokémon, tu appuies dessus et pour le capturer, tu peux te mettre en réalité augmentée et donc ton Pokémon il prend vie dans le monde dans lequel tu es. Et donc tu sais que dans ton sac à dos, tu as des Pokéballs, tu as des Pokémon, tu as tout un tas d'accessoires pour t'aider dans ta chasse. Et c'est ça qui fait vraiment l'attrait du truc et qui te fait dire, il y a vraiment un monde invisible virtuel qui est là. Et c'est franchement pas du tout le même ressenti qu'Ingress. Alors que oui, c'est la même chose. Mais
parfois la mise en forme suffit à changer le truc.
Oui. Ma femme se moque quand même gentiment de moi, mais je lui dis, mais attends, quand il va sortir, tu vas l'essayer, on va y jouer ensemble et après on en reparlera. Parce que je pense que si on veut vraiment vraiment se faire un avis, il faut passer 2 ou 3 jours à l'essayer. Et avoir au moins l'impression qu'on peut en avoir, pas forcément le plaisir immédiat qu'on en a, mais l'impression qu'on peut en avoir sur son potentiel et sur la collectionnite, etc.
Bon, écoute, bah on verra, hein, on verra. Moi, je crois que même avec les combats, s'il faut aller quelque part, c'est vraiment ça qui me, entre guillemets, pose problème. Et c'est pas une question cynique, hein, je suis pas en train de dire les gens sont paresseux, mais c'est juste une question pratique, quoi. C'est pas ce qu'on a envie de faire dans le jeu vidéo. C'est un petit peu comme le motion gaming, c'est comme, tu vois, c'est des trucs. Tu le fais un petit peu, c'est anecdotique. L'important, c'est le gameplay. Donc, s'il y a un bon gameplay qui s'installe, ça peut durer.
Oui, oui.
Mais au-delà de ça, bon, peut-être,
et, écoute. Si. Alors, une dernière chose, il y a aussi un facteur très important. C'est que c'est l'été. C'est l'été, tout le monde sort. Donc, je pense, enfin, s'ils sont malins, je pense que sur leur feuille de route, ils ont plutôt intérêt à sortir les choses quand il fait beau.
Ouais, ouais. Oui,
parce
mais
que
ça,
mine de rien, ouais, c'est vachement important. Non, mais le plaisir que je prends, j'étais à 6h30 dans les rues de ma ville. J'ai passé une heure.
Non, mais ça, mais c'est encore.
Et c'était agréable. C'était agréable.
Oui, mais t'es en train encore de me donner des arcs à ma flèche et du feu à mon huile, tu vois. C'est mais, combien de temps est-ce que tu te vois dans 3 semaines encore sortir non, tous les jours à 6h du mat?
Oui, non, mais voilà. Alors non, clairement tous les jours non, mais
oui,
là
non,
je suis en train de me dire mais ouais, c'est bien de sortir à 6h30 du mat de chez soi quand il fait beau, il y a personne dans les rues, c'est calme, c'est agréable, c'est beau, il y a une super lumière, voilà.
Bien. Yeah. Bon. OK. Écoute, on verra. Alors si ça ouais. dure ou pas, moi j'ai pas l'impression, mais peut-être que le futur, l'avenir me donnera tort, on verra bien. Bon, un truc qui par contre me plaît énormément et qui voit une croissance assez stable depuis des années et des années, on vous en parle dans l'émission depuis un moment, c'est le tournoi de l'EVO, EVO, donc qui a lieu tous les ans et qui a eu lieu cette année encore ce week-end. L'EVO, c'est un tournoi de jeux de combat qui est un tournoi vraiment immense. C'est de l'e-sport, mais c'est de l'e-sport un petit peu particulier. Et je sais pas si tu as déjà suivi l'EVO, toi, j'en ai quand même parlé plusieurs fois, mais c'est pas un truc qui est excessivement connu. C'est moins connu que League of Legends ou ce genre de choses chez les gens qui suivent pas l'e-sport, et c'est très spécifique aux jeux de combat. Donc, je sais pas, toi, t'as une impression sur ça ou?
Je le suis, mais je le suis. C'est grâce à toi, Patrick. tu vois, l'été encore, l'été tous les ans, je tombe à haie et ton rendez-vous jeu arrive quand je tombe à haie et je suis l'Evo en taillant ma haie.
Et donc tu sais ce qui s'est passé avec ça.
Bah voilà, et une fois que j'ai fini, je me dis tiens, et si j'allais voir la vidéo dont Patrick a parlé, et le midi pendant que je mange, du coup je me repose en regardant ça. Et
bah, très bien.
C'est le seul contact que j'ai avec l'Evo, mais c'est un contact qui me plaît vachement. Je suis pas du genre à suivre tout ce qui se passe machin, mais ça comme je le disais en mode consommation chips, c'est très bien.
Bah moi, écoute, vous pouvez aller chercher sur YouTube, en fait, si vous cherchez EVO 2016 Grand Finale, vous pourrez trouver plein de grandes finales, parce que la particularité de l'EVO, c'est que c'est vraiment un tournoi immense qui couvre énormément de jeux et des tonnes de joueurs. En fait, c'est un tournoi ouvert dans lequel n'importe qui peut s'inscrire et venir participer. Alors évidemment, ça se passe à Los Angeles, donc faut prendre l'avion, hein, à moins qu'on habite à côté. Mais c'est vraiment un truc assez unique, contrairement aux tournois habituels où les qualifications se font sur des mois avant, ou alors c'est des invitations ou ce genre de choses. Sur l'EVO, si je ne m'abuse, il y a même pas de gens invités. C'est vraiment que, ou peut-être qu'il y a des gens qui sortent pas des poules de qualifications, mais qui doivent faire les 64e ou 32e de finale, mais personne n'arrive direct en quart de finale, quoi. C'est vraiment tout le monde doit participer. En l'occurrence, sur l'ensemble des jeux, il y avait plus de 10 000 joueurs qui étaient inscrits. Donc vous imaginez, à Los Angeles, c'est genre un hôtel entier avec des centaines de consoles et de machines où les gens doivent faire leur qualification pendant plusieurs jours pour arriver enfin aux grandes finales, parce que les grandes finales, il y en en a plein. Il y a évidemment Street Fighter V qui est le l'attraction principale, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai retenu Tekken 7, King of Fighters 14, mais il y a aussi Super Smash Bros, il y a Marvel versus Capcom 3, il y a Mortal Kombat, enfin il y a même Street Fighter 4, il y en a plein. Et c'est un truc incroyable parce que une autre chose qui est surprenante, c'est à quel point l'ambiance est différente des tournois habituels. Vous savez, quand on regarde un tournoi type League of Legends ou Dota ou les tournois de Blizzard ou ce genre de choses, c'est très uniforme en fait. C'est un immense stade avec des machins isolés et puis des ambiances concerts de Pink Floyd. Enfin, c'est énorme. Là, il y a, d'une part, on parle d'uniformité, il y a énormément de couleurs, de couleurs de peau dans l'assistance, dans les compétiteurs. Il y a des blancs, des noirs, des basanés, des asiatiques, bien sûr, qui finissent par tout gagner. Mais c'est très bizarre de voir, et je comprends pas très bien pourquoi, sur les jeux de combat en particulier, on a une telle diversité, alors que sur la plupart des autres jeux, souvent, même dans l'assistance, hein, on voit très peu de gens qui ne soient pas soit asiatiques, soit blancs. C'est assez surprenant. Et puis, il y a une ambiance qui a l'air convivial, sympathique, qu'on retrouve pas ailleurs. Il y a des tournois dont les grandes finales se passent dans des petites chambres minuscules. On a vu King of Fighters 14, c'est particulier parce qu'il est pas encore sorti, mais il y avait donc une toute petite salle, une toute petite pièce. Un tournoi comme Tekken 7 qui est un peu plus gros, c'est une salle de conférence, une salle de bal dans un hôtel. Et la finale de Street Fighter 5, mais c'était une salle de concert, quoi. C'était immense, immense. Et malgré ça, les finalistes, ils sont tranquillement assis sur des chaises toutes pourries, des chaises de salle de conférence d'hôtel, devant leur écran, avec leur manette immense sur les genoux. Et derrière, tu as, mais c'est genre, comme je disais, c'est un concert de je sais pas moi, de Beyoncé, ou c'est énorme, énorme. Et c'était retransmis sur ESPN2, la chaîne américaine de sport. Bien sûr, sur Twitch, ça a fait des chiffres incroyables. Donc, c'est vraiment un truc unique dans le monde de l'e-sport. Et c'est vraiment le phénomène des jeux de combat. Tu disais, Jean, que tu aimes à aller regarder les vidéos que je conseille après l'émission. Là, je vais vous en conseiller trois. Il y a la grande finale Street Fighter V, bien sûr. Je vais pas spoiler, hein, mais la grande finale Street Fighter V qui était assez intéressante. Et c'était marrant parce que à la fin, celui qui a gagné a dit on lui a demandé comment vous avez fait pour réussir à contrer votre adversaire, machin. Et il disait download complete. Et download complete, un truc, c'est un truc que dit le Twitch chat quand... Ah, oui, bon, je vais même pas le dire parce que ça pourrait donner une indication. Mais je vais préserver, tu vois, plutôt que la blague, je vais préserver le non-spoilery truc. Donc, voilà.
Je l'ai regardé celle-là, et pareil, sans spoiler, mais il y a, en plus du combat qui est en train de se faire sur l'écran, mais il y a un combat psychologique, absolument dingue, quand tu vois qu'il y en a un qui commence à se prendre un enchaînement et qui sait qu'il va se faire poutrer parce qu'il est obligé de se manger tout le reste, et que l'autre répond par un perfect, et enfin, quand tu te mets à la place de l'un et de l'autre, le nombre de fois que tu te fais décontenancer, c'est autant psychologique que ce qui se passe à l'écran, ça joue vraiment sur les deux plans, quoi. Et c'est fou de voir ça, et de voir la tension qu'il y a, et à la fin il se sourit quand même, c'est quand même beau.
Bien sûr, bien sûr. mais t'as raison, tu sais, c'est le cas bien sûr dans tous les e-sports, hein, c'est le cas dans toutes les épreuves de ce type qui sont difficiles et qui se jouent à un niveau qui est tellement élevé. Mais je crois que c'est encore plus le cas dans les jeux de combat. Il y a quelque chose de très viscéral et de très rapide et de très simple à comprendre en plus. Et il y a vraiment ce jeu de distance, de précision, et à la moindre faute, tu peux vraiment perdre le truc. C'est des trucs très rapides, quoi. Donc c'est un petit peu différent, encore une fois, les jeux de combat des autres jeux d'e-sport.
Mais c'est ça que j'aime bien sur Street Fighter, c'est que contrairement aux autres, moi j'ai une lecture très très rapide et simple de Street Fighter, alors que ce que tu proposes après, j'ai plus de mal à rentrer dedans en fait.
C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En fait, Capcom veut et travaille son jeu pour qu'il soit plus accessible aussi. C'est clairement le cas. Street Fighter V, c'est l'un des jeux de combat les plus... Enfin, Street Fighter, la série en général, c'est l'un des jeux de combat les plus faciles d'accès pour les gens qui connaissent pas bien encore. Et ça passe tout à fait, ça se sent quand tu regardes également en tant que spectateur. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, c'est sans doute le plus accessible. Il y a aussi, alors les deux autres que je propose, c'est mes jeux favoris, hein, mais il y a Tekken 7 qui a eu aussi une grande finale assez intéressante, et enfin King of Fighters 14. Et King of Fighters 14, c'est évidemment l'un des trucs que j'attends, j'en parle depuis un moment. Et là, c'est des jeux Tekken 7 et King of Fighters, c'est des jeux où il y a beaucoup plus de combos qui sont très très longues.
C'est
plus difficile à comprendre, c'est même plus rapide, c'est un peu plus confus, mais c'est quand même assez excitant, je pense, à regarder. J'essaierai de mettre les liens vers les vidéos en question sur les notes de l'émission. Donc vous pouvez aller sur frenchspin.fr sur les notes de cet épisode, et vous pourrez trouver les liens vers les vidéos YouTube, les replays de ces combats-là, de ces grandes finales. Donc, bon, ça, c'était pour le tournoi en lui-même, mais l'Evo, c'est aussi l'occasion pour les sociétés qui développent tous ces jeux de faire des annonces. Et il y en a eu quelques-unes qui étaient assez intéressantes. Alors, il n'y a pas eu d'énormes annonces, hein, mais il y a eu des petits DLC sur Street Fighter V, des trucs liés au tournoi qui étaient marrants, genre les trucs qu'on a vus sur les tournois qu'on va pouvoir acheter dans le jeu. Une grosse annonce, c'était le fait qu'il y aura un Evo Japon, donc une déclinaison du tournoi qui va se produire au Japon, le Japon étant évidemment le cœur de la scène des jeux de combat, même si les Coréens sont très très forts aussi. Il y aura plus de détails au Tokyo Game Show qui se passe cet automne. Il y a eu une annonce de nouveaux personnages sur Tekken 7, il y aura Bob qui revient et Master Raven qui risque d'être une déclinaison de Raven. Bon, là je parle aux fans qui savent de quoi je parle. Sony et SNK vont faire une version de Garou Mark of the Wolves sur PlayStation 4 et PlayStation Vita, qui est un jeu très 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 vieux de SNK, mais ça fait vraiment plaisir de voir SNK qui essaye de revenir en force dans le monde des jeux de combat, parce que c'était le grand rival de Capcom et ils se sont dilués et perdus, ils se sont fourvoyés dans des jeux, enfin des trucs de pachinko et ce genre de choses, et aujourd'hui vraiment ils ont repris la voie du jeu de combat. Et notamment, et là c'est l'annonce pour moi la plus intéressante, notamment avec King of Fighters 14 dont je vous parle et avec lequel je vous saoule depuis des mois, et bien écoutez, vous n'aurez plus longtemps à attendre puisque bon, la sortie ça sera fin août, mais il y a une démo qui va être disponible dès demain, au moment où on enregistre et où l'épisode sera sorti. Donc dès le 19 juillet, une démo de King of Fighters 14 sera disponible avec 7 personnages jouables, des anciens, hein, Kyo, Mai, Yori et d'autres, dont des nouveaux. Et il y aura un mode versus en local et le mode training. Donc il n'y aura pas le mode online, bien sûr. Mais c'est marrant de se dire que 7 persos, c'est genre un tiers d'un jeu normal, quoi. Ou à la moitié d'un jeu normal. Là, ça sera juste une démo. Dans le jeu, il y a 50 persos. Donc, voilà, vous pourrez enfin mettre les mains dessus. Et moi aussi, je pourrais enfin mettre les mains dessus. Évidemment, King of Fighters est une licence qui est beaucoup, beaucoup moins connue que Street Fighter. Donc, le fait d'avoir une démo permettra sans doute de l'amener devant les yeux et dans les manettes de nombreux joueurs qui l'auraient pas vu autrement. Donc, voilà, ça sera sur PC.
Je sais pas si c'est une bonne chose de l'amener devant les yeux.
Oui, parce qu'il est pas très beau, c'est ce que tu veux dire. Mais tu sais quoi? Alors peut-être dans les manettes, ça sera mieux, parce que le gameplay de King of Fighters est toujours ce qui a été le plus intéressant. Et là, je pense qu'ils vont chasser plutôt... je pense que moi, c'est intéressant à essayer de toute façon, mais c'est plutôt chez les gens qui connaissent les jeux de combat déjà. Tu vois, c'est pas un truc avec lequel...
Ouais, mais alors... Tu vois, moi, pour j'allais te dire sur la news SNK, tant mieux qu'ils reviennent du moment qu'ils font pas de choses en 3D, parce que moi, depuis qu'ils sont passés en 3D, j'ai du mal, j'ai franchement du mal, et j'arrive pas à décrocher de mon King of 98, quoi.
Ah bah oui, non mais essaye-le, tu verras. Essaye-le sur... Et tu sais que d'ailleurs, King of Fighters 98 et surtout le 2002, il y a une version sur Steam qui est très bon marché et qui est pas mal du tout. Si tu veux faire ça, bon, les gens jouent pas beaucoup en ligne non plus, mais...
Ah non, mais c'est hors de question. Moi, je joue en ligne, je suis une nullité. Mais alors, j'adore regarder les jeux de combat. J'aime bien pratiquer tout seul chez moi. Mais dès que je me bats contre quelqu'un, non, c'est fini.
C'est pas possible. D'accord. Bon, écoute. Eh ben alors, la démo King of Fighters 14 est faite pour toi. Alors, puisqu'il n'y a pas dans le jeu. Bon, bah voilà pour l'Evo, c'est vraiment un tournoi pour lequel j'ai une énorme affection et je me demande même peut-être que l'année prochaine, peut-être que j'irai. Si ça tombe bien avec les dates d'autres trucs que je fais aux États-Unis, je me demande si ça serait pas intéressant d'y aller parce que c'est vraiment un truc qui est historique, qui grandit depuis plus de 10 ans et c'est quelque chose de vraiment particulier. Bref, je vous encourage à vous y intéresser, même si vous pensez que vous êtes pas très fan d'e-sport, comme on le disait à l'instant, les jeux de combat c'est beaucoup plus facile à suivre et en particulier Street Fighter V, donc. Peut-être que ça pourrait vous intéresser.
Donc, mais tu t'inscrirais en tant que compétiteur.
Ah mais j'avais même pas pensé à ça, mais oui, pourquoi pas, oui. Oui, moi je m'inscrirais partout, pas de problème, je me ferais sortir en 2 secondes, mais...
T'as quand même réussi à battre Kayane un jour.
Ah, tu te souviens de cette histoire, oui, c'est vrai. J'ai battu Kayane, effectivement, sur Street Fighter, tout à fait. Bon, on mentionnera pas le fait que c'était sur Street Fighter version iPhone et que c'était après genre 4 jours de conférence, je crois que c'était après une BlizzCon dans un aéroport en attendant un avion. Mais oui, je lui ai pris, je sais plus, c'était... Oui, je crois que c'était une partie complète, ouais. Ouais, effectivement, ma grande fierté, c'est ma plus grande fierté de jeu de combat. Wow, sur iPhone, c'est un vrai Street Fighter, hein. Comment? Non. Bon, ok. Bon, bref, donc voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je l'ai pas mentionné, mais Kayane y était. Il y avait tout un contingent français qui était. Il y avait Luffy, il y avait Ken Bogart, il y en avait d'autres. Bon, malheureusement, ils ont pas réussi à se qualifier très très loin. Mais oui, on a une population de combattants français qui est tout à fait respectable. Donc, oui quoi?
Non, je dis oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, oui.
Très bien, bon. Donc bref, voilà, l'Evo, c'est un grand moment. Bah écoutez, on va passer à la suite, avec quand même un petit remerciement à Rafa9, qui nous dit de suivre sur iTunes, qu'il adore l'émission. Un podcast à conseiller à tous les amoureux de jeux vidéo. Je l'écoute depuis le numéro 36 et j'en suis devenu accro. Longue vie à ce podcast et un énorme merci, un fan suisse. Merci à toi Rafa9. Il dit aussi, PS, ça serait sympa un hors-série qui vous présente et raconte votre parcours, Patrick. Je sais pas si ça serait un hors-série. Peut-être un article de blog à un moment. Peut-être que j'expliquerai d'où je viens, surtout pour que les gens en sachent quoi. Mais oui, je pense pas que je ferai un hors-série. Le sujet, c'est quand même les jeux vidéo. C'est pas Patrick, donc.
En tout cas, tu fais un jeu vidéo sur Patrick.
Je crois pas que je suis encore à ce stade. Il y a des youtubeurs qui ont des jeux vidéo sur eux, mais non, moi je suis encore un tout petit peu trop petit quand même. Et puis bon, je suis pas certain que ça serait très intéressant, genre le jeu vidéo du podcast, tu sais. Tu dois enregistrer, tu dois t'assurer que t'as les bons intervenants,
préparer tes émissions,
faire le montage. Ah merde, j'ai mal monté, le flux RSS est cassé. Ah là là, je reçois un tweet me disant que ça marche pas, merde. Vite, il faut aller sur le FTP, regarder ce qui se passe. Oui, ça serait. Je suis pas sûr que ça serait hyper marrant. Bref, d'autres news. On continue avec des jeux nostalgiques qui reviennent sur des plateformes actuelles, enfin actuelles avec des pincettes, puisque ce sont des jeux TurboGrafx. Vous vous souvenez de la NEC, la NEC TurboGrafx? Eh bien, il y a des jeux TurboGrafx qui arrivent sur la Wii U. Ouais, bon. Tout à coup, vous étiez hyper excité, mais la Wii U, les 4 qui en ont une, se disent qu'ils vont plus l'utiliser très longtemps.
Bah ouais, voilà. Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle et que parce que comme je fais tous ces jeux-là, je me suis dit ouais, je vais pouvoir peut-être les découvrir, mais il faudrait que j'ai une Wii U, quoi.
Ouais, ouais, exactement, c'est le problème. Peut-être que c'est des premiers titres, hein. Il y a R-Type, New Adventure Island. Mais bon, de toute façon, je crois que si on veut vraiment jouer à ces jeux-là, il y a des moyens avec des, émulateurs, des trucs comme ça. Donc, mais c'est marrant de voir tous ces jeux aussi revenir. Et à propos de nostalgie, tu as vu cette histoire sur la NES Mini automne?
J'ai vu le premier tweet, j'étais tout fou.
Ouais, mais tu peux expliquer ce que c'est alors?
Alors. Bah, en fait, notre bonne vieille NES, là, la grosse boîte, va faire un régime, donc elle va tenir dans la paume de notre main, et on va pouvoir la brancher en HDMI sur un écran et jouer à 30 jeux NES classiques. Alors, il y a Zelda, il y a Castlevania, il y a Mario, et voilà, il y a 30 jeux, mais la grosse déception, enfin deux. Il y a deux déceptions. Donc, la première, c'est que il y a pas besoin de souffler dedans pour que ça marche. Et la deuxième, c'est que, eh ben, on peut pas ajouter d'autres jeux que les 30 jeux de base. Il y a pas de support externe, d'extension de mémoire, etc.
Ouais, il y a pas mal de consoles, oui, de machines de ce type. Tu branches sur la télé et puis c'est juste ces jeux-là. Entre parenthèses, ils vendent. Elles coûtent, je sais plus, 40 €. Enfin, elles vendent. Elle est annoncée qu'aux États-Unis, je crois, pour le moment, mais je suis sûr qu'elle se vendra en Europe aussi. C'est $40 aux États-Unis et la manette coûte. Tu as une manette incluse et tu peux en acheter une en plus pour $10. Et la prise, c'est la prise des Nunchuk Wii U. Oui. Donc tu peux brancher pour jouer en virtuelle console aussi si tu veux utiliser la manette là-dessus, mais. Ouais,
il y aura une vraie manette classique, hein, le truc rectangulaire qui faisait mal aux mains et tout ça. Hein.
C'est ça, ouais, exactement. Et oui, effectivement, bon, c'est 30 jeux classiques, c'est mignon, c'est marrant, mais c'est vraiment une blague, quoi. Mais c'est marrant.
Écoute, moi, je me dis, tu vois, ma fille qui a 3 ans passé, là, elle aurait 2 ou 3 ans de plus, ça ferait un beau cadeau de Noël, je trouve, pour. Tu sais,
tu crois pas qu'elle va regarder ce truc avec elle va regarder les jeux sur téléphone et puis regarder ton truc pourri et te le jeter à la figure, non?
Bizarrement non, parce que alors déjà il y a le truc pour repartager moi mes souvenirs d'enfance et ma culture vidéoludique, mais là j'avais mon neveu qui a 5 ans là à la maison la semaine dernière et on a joué à Super Mario Bros 1 et on s'est bien amusé.
D'accord. Bon, bah écoute, peut-être, oui, c'est sûr que c'est un petit truc marrant, effectivement. Je crains que ça soit un peu trop nostalgique pour les jeunes, mais
oui,
peut-être,
oui, on sait jamais. Ouais.
passons à des histoires de chiffres. Il y a tu connais le NPD, qui est l'organisme qui suit et qui compile les chiffres de vente, les chiffres de vente aux États-Unis.
Qui ne voulait plus dire grand chose actuellement, parce que le marché n'était pas représenté correctement.
Exactement, le problème c'était qu'il n'avait pas les chiffres de vente en ligne. Donc il ne comptait que les chiffres de vente en magasin et évidemment ça voulait rien dire du tout. Donc ils ont annoncé, c'est une grosse annonce pour les analystes et pour les gens qui suivent les chiffres, c'est que ils ont des partenariats avec tous les éditeurs principaux. Alors on a Activision, Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom. Alors non, c'est Activision, je sais pas si c'est Activision Blizzard, mais j'imagine que c'est les deux. Capcom, Warner Bros, Take-Two, etc., Square Enix, enfin presque tout le monde. Il y a quand même genre Bethesda, Microsoft, Sony, enfin les constructeurs.
Et Nintendo,
oui, bien sûr. oui, c'est pour ça que je disais les constructeurs. Bethesda en fait pas partie, mais n'ont pas trouvé un accord. Donc, bon, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Ah non, effectivement, Battle.net n'est pas inclus, donc c'est juste Activision, pas Activision Blizzard. Donc, c'est un début, quoi. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien du tout en chiffres numériques. Alors, on n'aura pas tous les détails, ça sera souvent par franchise, et ils vont pas différencier les DLC du jeu lui-même, mais il n'empêche, ça donnera un petit peu plus de visibilité directement depuis les éditeurs et on n'aura pas besoin de passer par des panels de gens dont on surveille les achats par carte bleue, etc., qui peuvent être représentatifs, mais c'est pas aussi précis. Et moi, j'étais assez surpris que les éditeurs donnent leur accord, parce que généralement, moi, j'étais convaincu qu'ils garderaient ces informations cachées précieusement. Mais évidemment, ça peut leur servir aussi d'avoir les données de tout le monde. Donc,
c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ça peut te faire une super pub. Ça peut te mettre six pieds sous terre quand tu vas mal.
Et ça peut te donner des informations aussi sur tes concurrents, ce qui peut être intéressant aussi. Ouais. Donc voilà, une information intéressante pour les chiffres. À propos de chiffres, figurez-vous que les ventes sur les soldes Steam étaient plus grosses cette année pour les soldes d'été que l'année dernière. Et ça, et pas qu'un peu, hein, ça m'a surpris parce que j'ai toujours l'impression que sur les soldes, pour moi en tout cas, sur les soldes Steam, c'est genre on m'y reprendra plus quoi. J'achète des tonnes de jeux et puis après j'y joue plus. Et puis finalement, je rachète quand même un petit peu parce que je me dis, mais un truc genre qui coûte 20€ d'habitude et là il est à 4, je peux pas le laisser passer quoi, c'est pas possible. Donc j'en achète toujours un petit peu. Et cette année, donc, ils ont généré 230 millions de dollars de revenus contre 160 millions l'année dernière. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que non seulement ils font plus, ils font toujours plus, mais pas qu'un peu. Enfin, 160 à 230, c'est une hausse phénoménale, quoi. Donc, je sais pas si toi, t'es dans la même situation.
Alors,
mais oui.
Mais il y a les soldes. Ça fait deux périodes de soldes qui ont changé. Alors, je suis exactement dans la même situation, sauf que en plus, moi, cette année, je m'étais donné un budget. C'est comme une bonne résolution de janvier, hein, voilà. Et là, la particularité de ces deux dernières soldes, c'est qu'il n'y avait plus les ventes flash. C'était les mêmes soldes du début jusqu'à la fin de la période de soldes. Il y avait des mises en avant régulières chaque jour, mais ça changeait strictement rien à la réduction qui était appliquée au truc. Et j'avais lu que cette façon de faire, en fait, permet à l'acheteur, enfin permet, incite l'acheteur à ne pas différer son achat. Parce que effectivement, quand il y avait des ventes flash, on se disait, attends, ok, il est à moins 40%, mais peut-être que si j'attends la toute fin, il va être à moins 70. Donc du coup, je vais pas l'acheter. Et du coup, enfin, moi ça m'est arrivé, hein, du coup, je l'oublie et mon panier se vide et je l'achète pas. Là, effectivement, plutôt que de me faire un panier de jeux, je me suis fait 4 paniers sur toute la période des soldes de jeux, quoi.
Ouais, tu vois le truc passer et tu dis, ah, bon, voilà. Ok. Ouais, ouais, voilà. Effectivement. Bah, je crois que t'es pas le seul dans ce cas, hein, clairement. Donc, vous n'êtes pas seul si vous achetez plein de trucs auxquels vous ne jouez pas sur les soldes Steam.
Ah oui, et j'ai argument aussi qui a été avancé, c'est que, y a aussi l'augmentation des utilisateurs Steam.
Oui, bien sûr. Effectivement, qui continue à augmenter régulièrement.
Oui. Comme on l'avait pas dit.
Pour toujours parler de chiffres, il y a un tweet que j'ai vu de mon ami ZooGX, qui est un analyste, c'est un petit peu l'équivalent d'Oscar Lemaire en anglais, qui a analysé des données, qui a livré des données de Facebook sur 12 marchés différents, qui parlent du sexe des joueurs de jeux vidéo en fonction de la plateforme. Et comme on s'en doutait sur les tablettes mobiles, téléphones et tablettes, on a beaucoup plus de proximité entre les hommes et les femmes. On est à environ 46-47% de femmes contre 53-54% d'hommes, donc sur smartphone et tablette. Donc c'est presque à parité, vraiment. Mais je crois qu'on a tendance parmi les joueurs à se dire, ah oui, mais ça c'est le marché mobile, c'est un petit peu différent sur ordinateur, sur console. Eh bien, même sur ordinateur, on est à 40% de femmes et 60% d'hommes. Donc il y a quand même beaucoup de filles qui jouent, et là les gens vont se dire, ah oui, mais attends, sur ordinateur, alors je sais pas s'ils comptent les jeux Facebook, les trucs comme ça, je sais pas, mais du coup, même mettons les ordinateurs de côté et parlons des consoles. Alors là, vraiment, il n'y a pas de petits jeux casual, mobile, machin. C'est vraiment, sur console, c'est des jeux de gamers. Même sur console, on est à 33% de femmes et 67% d'hommes. Donc, on a quand même un tiers des joueurs qui sont des femmes. et uniquement sur console, donc ça compte pas les jeux en général. Et je pense que la plupart des joueurs, si on leur demandait comme ça à froid, quel est le pourcentage de joueurs de console qui sont des femmes, je pense pas que les gens répondraient un tiers. Je pense que le chiffre qu'on imagine serait plus bas. Et d'ailleurs, même moi, j'aurais peut-être dit un petit peu moins. Donc,
Moi, j'aurais dit plus haut.
C'est vrai ? Sur console,
bizarrement, j'aurais dit plus haut. Ouais, alors, sur console, si je prends en compte les consoles portables.
Oui, bien sûr, ces consoles.
Oui, oui, oui. Donc oui, j'aurais dit plus haut quand quand je vois moi quand on est en sortie toi, scolaire ouais. Le nombre de Nintendo DS qu'il y a entre les mains des ados autant les gars que les filles quoi.
Bah peut-être que les choses changent, hein. Peut-être que c'est notre génération qui était un petit peu moins, moins de filles qui jouaient, et puis les choses changent. Je suis sûr. Enfin, il y en a évidemment. Moi, j'en connais plein, mais bon. Donc voilà, c'était un chiffre que je trouvais intéressant que je voulais vous livrer.
Non, et puis il y a alors juste pour aller un petit peu plus loin dans l'étude.
Oui, vas-y.
Vu que je parle du côté parents machin, il y avait aussi un volet pour les parents. Et c'était intéressant de voir aussi que les parents passent, enfin il y a 60% des parents qui jouent sur leur smartphone pendant que 48% regardent la télé. Donc on est passé à de la consommation de jeux qui est plus importante que la télé sur le créneau 17-20 heures. Donc c'est-à-dire quand on est à la maison, quand on a fini sa journée de boulot.
Mmh, ouais, effectivement, c'est assez intéressant ça aussi. T'as raison de le signaler, ouais. L'importance enfin, on revient à l'importance de la révolution du smartphone. Je sais qu'il y a des gens qui ne la comprennent pas encore et qui critiquent ouais. parfois l'approche smartphone, mais, enfin, les choses sont claires, quoi. Les chiffres parlent et les usages sont indéniables. Il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'ordinateur, le plus utilisé, c'est le smartphone.
C'est clair, ni un
PC, ni une console, ni une. Donc, après, il y a des usages spécialisés, bien sûr, mais pour tous les usages, généralement, le plus utilisé, c'est le smartphone. Enfin, pour tous les usages, bien sûr, t'as fait oui. Excel, non, mais.
et encore, on parle de ça, mais c'est avant l'avènement Pokémon Go. Hein.
Oui, bah écoute, on en reparlera dans quelques mois.
Je viens de me rendre compte que sur les chiffres que je t'ai donné, 60% à 48%, ça fait 108%. Donc il y a un petit problème aussi à ce niveau-là. Mais bon.
Non. Il y a peut-être des gens qui regardent la télé et qui jouent aux
machines.
Bon, continuons à parler de Valve et des sites de Paris dont on parlait la dernière fois. D'abord, un petit erratum, je voudrais remercier Florian qui est venu, et d'autres, hein, mais Florian était le premier à me rappeler dans les commentaires de l'émission que, bien sûr, Valve a un marketplace sur Steam pour s'échanger et vendre les objets. Donc, ils ont effectivement cette possibilité intégrée à leur écosystème. Donc c'est pas entièrement sorti de leurs mains. Donc merci Florian de me l'avoir signalé. Mais ceci dit, ce qui devait se passer s'est passé, c'est-à-dire que Valve a mis ses avocats en chasse de toutes ces histoires, et tous les sites qui avaient été cités de Paris et de loterie d'objets de jeux CS:GO, enfin d'objets de Counter-Strike Go. On sont en train de fermer, en fait. Il y a eu encore des excuses, des gens qui géraient les sites, enfin tout ce genre de conneries, mais c'est terminé. Maintenant, ça a clairement eu son effet, ce procès qui a été intenté aux États-Unis. Alors, on va voir si ça va aller plus loin avec Valve eux-mêmes et leur marketplace. Moi, je pense pas. Peut-être que ça sera limité plus sévèrement en âge, si c'est pas déjà le cas. Mais en tout cas, les histoires de loterie, je crois que c'est terminé. Clairement, ce bad buzz horrible a fait réagir Valve. On dit parfois un petit peu trop lentement parce que ça prend du temps de savoir d'analyser la situation et de prendre la bonne décision. Donc ça leur a pris une petite semaine, alors que les gens appelaient une réaction dans les deux jours, mais clairement, c'est souvent, si on réagit à ce genre de truc dans les deux jours, il vaut mieux attendre une semaine et faire la chose juste que de réagir tout de suite et puis de devoir refaire ou devoir corriger ou de machin. Donc, voilà, la fête est finie, quoi, pour ces trucs-là, je pense, à très court terme. Est-ce que c'était une préoccupation pour toi en tant que parent et qui parle des jeux pour les enfants et des parents, ou c'est quand même un petit peu étranger, j'imagine, pour nous?
Ma fille n'ayant que 3 ans, donc elle s'intéresse pas trop à ce genre de choses là. Mais après, je sais que moi, le système, enfin, et je pense que toi aussi, hein, puisque tu savais pas qu'il y avait un système de marketplace, mais donc moi j'avais déjà vu qu'il y avait ce système de marketplace, mais il est tellement pas nécessaire, enfin pas indispensable. Pour moi, ça ne touchait qu'une partie, une partie très très ciblée des gens qui sont très très hardcore et tu sais, qui sont dans l'optimisation constante et donc plutôt dans.
Non, mais c'est des objets cosmétiques.
Au niveau
en plus,
des enfants. Oui, mais et au niveau des enfants, ça veut dire peut-être une surconsommation, tu vois, de pratiques. Du coup, c'est plus aux parents de s'inquiéter du comportement de leurs enfants plutôt que de s'inquiéter de ces sites-là. Voilà.
Ouais, effectivement. Et puis pour préciser la raison de la nécessité de ce site, de ce marketplace chez Valve sur Steam, en fait, c'est un petit peu. Moi, ça me fait penser à l'hôtel des ventes sur Diablo 3, qui devient nécessaire en fait à partir du moment où on peut s'échanger les objets, parce que si on peut s'échanger les objets, il y a toujours des sites tiers qui vont externaliser la vente des objets, même si on ne l'autorise pas sur le site. À partir du moment où l'échange est possible, il y a des sites tiers qui sont pas forcément hyper fiables, qui vont naître et qui vont rendre possible l'échange. Donc, la solution, c'est soit de rendre l'échange impossible, soit de créer un environnement un peu plus sûr pour que cette vente se fasse de manière sécurisée. Donc c'est pour ça, à mon sens, qu'il y a cette marketplace sur Steam. Et encore une fois, s'il ne voulait pas de marketplace, il faudrait qu'il désactive l'échange. Donc ça devient une solution un petit peu extrême. Si on veut que cet élément social d'échange soit possible, bah il faut forcément gérer le marketplace, quoi. Et en plus, ça fait des sous pour eux, je suis sûr, mais... Voilà, c'est pas aussi simple que de se dire « Ah, mais il faudrait pas qu'il y ait de marketplace. » Parce que pas de marketplace, ça veut dire pas d'échange du tout. Donc voilà, il faut juste savoir ce que ça implique. Petite news sur Red Dead Redemption, un jeu dont on parle beaucoup parce qu'on en espère une suite bientôt, peut-être très bientôt même, enfin dans l'année, enfin annoncé dans l'année en tout cas. La rétrocompatibilité sur Xbox One a été annoncée il y a une dizaine de jours et les ventes du jeu sur Amazon ont explosé, ce qui est pas si surprenant parce que c'est vraiment un jeu excellent. Donc si vous n'avez jamais joué à Red Dead Redemption et que vous avez une Xbox One et que vous êtes en mal de jeu, bah c'est peut-être le moment d'aller le chercher, soit pas cher sur Amazon aujourd'hui, j'imagine que le prix s'est restabilisé, soit si vous le voyez passer sur Xbox One dans un Auchan ou un Intermarché ou je ne sais quoi, dans le rayon bonnes affaires, soit carrément aller l'acheter sur Xbox One, j'imagine qu'il est plus sur Xbox 360 en numérique, j'imagine qu'il est plus très très cher. C'est vraiment un super jeu. Je pense qu'il a pris un petit peu d'âge, mais c'est un open world dans la pampa, dans l'ouest américain, pour jouer au cowboy, c'est vraiment un jeu à faire, quoi. Tu l'avais fait, toi, ou tu l'avais raté?
Bah, j'ai jamais eu de Xbox.
Ah, d'accord. Bah, écoute, achète-toi une Xbox One S, là, quand elle sera disponible, et puis comme ça, tu pourras jouer.
Et quand est-ce que je me fais mon PC?
Est-ce qu'il est sur PC, d'ailleurs,
Non, je viens de regarder sur Steam, il y est pas.
Ouais, bon, bah, exclusivité console, alors, malheureusement. Evolve est devenu free to play. Vous vous souvenez de ce jeu en 4 contre 1 où il y avait 4 chasseurs et un monstre qui était sorti il y a quoi? Ça doit faire, ça fait 2 ans déjà ou pas? Je sais
quelque
même plus.
Quelque chose comme
ça,
ouais. Ça fait 2 ans dans pas longtemps, je pense.
Voilà. Et malheureusement, sa politique de DLC et l'avait asséché assez vite. Enfin, on l'attribue à la politique de DLC. Peut-être que c'était le gameplay, mais bon, on saura jamais. Mais il est maintenant free to play, et donc si vous voulez aller l'essayer, c'est peut-être le moment. On ne sait pas exactement si les mécaniques de jeu, enfin, j'ai pas jeté assez de coups d'œil d'assez près pour savoir si les mécaniques de jeu sont adaptées au free-to-play. Il faudra voir, mais en tout cas, vous pouvez l'essayer. Littéralement, ça ne coûte rien. Donc voilà.
J'avais été voir sur Steam justement. Donc c'est, enfin, il faut bien comprendre que c'est une refonte complète du jeu. Hein,
oui. Enfin, c'est ce qu'ils disent en même temps, forcément.
Non, mais parce que du coup, parce qu'il faut, il faut se taper les 60 gigas à télécharger. Et puis comme j'ai pas encore ma connexion fibre, donc j'attends un petit peu. Mais moi, j'avais testé la bêta qui m'avait enchanté. Et là, je lisais une review d'un joueur sur Steam qui était pas du tout content et qui disait que le jeu était très bien, enfin le nouveau jeu, donc le Evolve Stage 2, était très bien, machin, mais que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait gagné, tout ce qu'il avait acheté dans le jeu original avait complètement disparu. Et ça, je trouve ça un peu limite.
Bah, je suis sûr que les 4 qui l'ont acheté, effectivement, seront furieux. Mais, non, mais j'exagère un peu, mais c'est sûr que, ouais.
Je trouvais pas ça sympa. C'est enfin, sûr, voilà, ouais. C'était. Mais bon, après, moi, je leur fais confiance. Hein. Le jeu, dans sa version bêta, m'avait enthousiasmé. Visiblement, les reviews sont pas mal. Donc, dès que j'aurai ma connexion fibre d'ici quelques semaines, je vais y rejouer de toute façon.
Ouais, bah c'est le problème en fait de ce jeu-là, c'est qu'il fait partie des jeux qui sont au rang 2 auxquels on joue genre quand on a un petit peu de temps, et le problème c'est qu'il y a tellement de jeux au rang 1 auquel on veut absolument jouer, c'est genre déjà on n'a pas le temps de tous les faire comme on le dit depuis un moment. Donc c'est compliqué de voir quand à moins qu'on soit spécifiquement fan de celui-là.
Surtout qu'en ce moment, j'ai un autre jeu dans le même genre à gameplay asymétrique là, où c'est Dead by Daylight, où on joue un jeu soit un tueur psychopathe, tu sais, genre Vendredi 13, ou soit les 4 pauvres adolescents qui sont en train de se faire massacrer. Et donc si tu joues les ados, il faut te barrer, si tu joues le tueur, il faut essayer de tuer les 4 ados. Et je voilà, donc j'ai déjà celui-là à rincer un peu et qui m'enthousiasme pas mal, mais qui est en early access encore.
Mais j'ai entendu effectivement que c'était une version justement qui marchait de cette mécanique asymétrique et que c'était presque la version réussie d'Evolve en fait, enfin de l'idée de base d'Evolve. Bon, en même temps, Evolve est free to play, donc
encore,
on peut y aller. Mais,
c'est pas parfait
mais oui,
encore.
Quelles sont tes impressions du coup?
C'est très dur d'être le tueur. Mais c'est le rôle que j'aime beaucoup parce que bah voilà, il faut quand même que tu sois désavantagé par rapport aux autres. Mais non, je trouve ça vraiment chouette pour peu que tu triches pas. Pour peu que tu relèves pas le gamma de ton écran parce qu'on voit pas bien, c'est la nuit, machin, et donc tu veux mieux voir. Bon, voilà, pour peu que tu triches pas. Non, t'as vraiment cette peur. Quand t'es du côté des ados là, parce que les systèmes sont que plus le tueur est proche de toi, plus ton cœur bat vite, tu entends les battements de ton cœur et quand tu es le tueur, tu peux voir les gens qui se déplacent, qui courent, mais une fois qu'ils courent plus, ils sont bien cachés et tu peux être quasiment invisible aux yeux du tueur juste en étant accroupi dans des hautes herbes. Enfin, c'est je trouve que c'est plutôt malin.
Ouais. Est-ce qu'il y a ce système qui était un petit peu critiqué sur Evolve justement où quand le monstre était à son niveau 1 d'évolution, il était vraiment super faible. Et puis quand il était au niveau 3, bah, les chasseurs pouvaient le massacrer en deux. Ils pouvaient massacrer les chasseurs en 3 coups. J'exagère, hein, mais est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de rendre cette dynamique un petit peu moins frustrante ou...
c'est complètement différent. Alors déjà, tu as un système de ranking et de saison comme sur Hearthstone et tout ça. Ça évite les grands déséquilibres et au fur et à mesure de ta progression, donc tu gagnes des points d'expérience qui sont des points de sang, enfin je sais plus. Et du coup, tu peux débloquer des objets, tu peux débloquer des armes, tu peux débloquer des trucs cosmétiques, tu peux débloquer des offrandes qui vont te donner un avantage par rapport à ton rôle. Donc tu peux très bien faire ça en tant que tueur ou en tant que survivant. Et ce qui fait que le, enfin pour moi le jeu s'équilibre quand même pas mal. C'est vrai qu'il est mais vraiment dur hein, quand t'es tueur. J'ai gagné une seule partie en tant que tueur, mais ça m'empêche pas d'avoir ce plaisir parce que le tueur, en fait tu donnes un coup. En fait, il faut que tu donnes deux coups sur le survivant pour pouvoir le prendre sur tes épaules et puis l'accrocher à un crochet de boucher, etc. Enfin bref,
c'est charmant.
Ah ouais ouais ouais. C'est...
Papa, mais, quoi tu joues Attends ouais, pas tout de suite ma chérie.
Et mais du coup tu te sens puissant même si ben voilà tu donnes un coup et ben après il faut que tu remontes ta hache, t'es hyper lourd, t'es balourd quand tu passes par une fenêtre, quand tu enjambes une fenêtre, du coup t'es hyper lent, mais tu sais comme dans les films, tu vois, c'est t'as le tueur qui est là, imperturbable, qui avance. Mais alors ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, et pareil pour les survivants. Donc c'est pas parfait, mais moi j'y prends beaucoup de bon temps en ce moment.
Très bien. Ok, pour la suite, bah, parlons un petit peu de Team Fortress 2 qui a une mise à jour matchmaking. On parle beaucoup de jeux de tir en ce moment avec la sortie de tous les hero shooters dont Overwatch bien sûr. Eh bien figurez-vous que Team Fortress 2, pour ceux qui ne le savaient pas, n'avait pas encore de système de classement et de matchmaking. Et je pense que ça va être très intéressant de voir ce système de matchmaking, comment ils vont le gérer dans Team Fortress, parce que c'est un jeu avec lequel Overwatch partage énormément de choses, il y a beaucoup de similarités, notamment le fait que ça soit un jeu par équipe, où on peut changer de personnage quand on veut. Donc, il est assez difficile de déterminer le niveau d'un des joueurs au milieu de tout ça. Et c'est un problème auquel est confronté Overwatch, bien sûr. Donc, ça va être marrant de voir comment le gère Valve avec Team Fortress 2. Donc, il va y avoir un mode ranked, enfin, des parties classées, etc., etc. Donc, voilà pour une mise à jour Team Fortress 2 qui continue à avoir des mises à jour presque... Enfin, ça fait 10 ans qu'il est sorti, quoi. Orange Box, c'était 2006, 2007, je sais plus, mais... donc, voilà, c'était il y a un moment, peut-être un peu plus tard. Overwatch, puisqu'on en parle, il y a Anna... qui est disponible sur le public test realm ou le public test, je sais plus comment il s'appelle, le PTR quoi.
Royaume de test.
Le royaume de test, voilà. Enfin ça c'est en français mais je crois que c'est pas un ouais. Region, c'est region hein, pour Overwatch. Bref, ça n'a aucun intérêt. Anna, c'est un nouveau personnage pour Overwatch qui est donc disponible maintenant. C'est intéressant parce que c'est un personnage qui est un sniper mais un sniper soigneur. Donc, bon, vous pouvez faire des dégâts, pas énormément, mais vous pouvez aussi, si vous tirez sur vos alliés, eh bien, ça les soigne un petit peu. Donc, c'est un rôle un petit peu marrant, un petit peu original pour le contexte d'Overwatch. Et c'est sympa de voir qu'on a, déjà un mois après la sortie du jeu, déjà des nouveaux personnages qui commencent à arriver. Et on espère que les choses vont continuer. Elle n'est pas disponible sur le jeu complet, mais on a déjà des indications sur même un autre personnage qui devrait arriver. Dans pas trop longtemps, et puis des nouveaux modes de jeu peut-être en fait dans l'été, en fait d'ici la fin de l'été début de l'automne, il y a peut-être encore des nouveautés qui vont arriver. Donc c'est bien de voir que les updates continuent. Et si vous en voulez plus et que vous parlez anglais, bien sûr, je vous recommande l'émission Overwatchers, dans laquelle on a passé en revue toutes les capacités du nouveau personnage, et puis tous les changements. Il y a plein d'autres changements pour d'autres personnages, Zenyatta, Mercy, Diva, enfin Ange, Diva, des modes de jeu, le mode de jeu qui est un petit peu modifié en partie classée, où on va plus pouvoir avoir plusieurs fois le même personnage, etc., etc. On a analysé tout ça dans Overwatchers. Donc, je crois comprendre que toi, t'es pas sur Overwatch, Jean.
En fait, j'en veux un peu à Blizzard d'avoir zappé
Mac
OS.
Sur Mac.
Voilà. Donc,
effectivement, c'est pour quand t'auras ton PC.
Je pourrais l'installer sur Bootcamp, mais
ça marche. Moi, quand je suis.
Ouais,
t'es juste énervé, quoi.
Voilà, c'est jusque là, voilà, ils avaient pas délaissé le Mac et voilà, j'étais très 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 très, très colère quand j'ai su ça.
Je comprends. Ouais, moi j'avais beaucoup étudié la chose et j'en avais déjà parlé, je crois, j'en étais venu à la conclusion que c'était vraiment le problème des cartes graphiques intégrées Intel dont on parlait en début d'émission. Et malheureusement, j'avais écrit un article là-dessus, vous pouvez le lire sur patrickbeja.com en anglais, où je détaillais vraiment précisément les raisons pour lesquelles ça fait que ça fonctionne pas pour un jeu comme Overwatch. Donc, mais bon, vous pouvez l'installer sur Bootcamp, c'est juste que vous jouerez a priori à moins d'avoir une carte dédiée. Si vous avez un Mac récent, ironiquement, il y a toutes les chances pour que vous n'ayez pas une carte dédiée et donc que vous ne puissiez jouer que en détail minimum et encore vous n'aurez pas beaucoup plus de 30 images secondes si votre Mac est super récent et puissant. Donc bref, voilà pour Overwatch. Ouais. Et puis on arrive un petit peu à la fin de l'émission qui a été bien remplie, mais je ne peux pas terminer l'émission sans montrer un petit peu, et je le mets à la fin parce que j'imagine qu'il y a des gens que ça n'intéresserait pas énormément, mais sans faire montre de mon fanboyisme Blizzard absolu, société pour laquelle je rappelle que j'ai travaillé pendant quelques années, et avant ça j'avais un podcast dédié à l'un de leurs jeux, World of Warcraft, hein, c'est comme ça que je me suis lancé dans le podcasting, donc
c'est comme ça que je t'ai connu. Bon.
Et voilà, et certains des auditeurs s'en souviennent encore, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, le jeu World of Warcraft a une place très, très bien installée dans mon cœur. Et figurez-vous que avec la sortie de l'extension qui arrive à la fin du mois d'août, le 30 août très précisément, l'extension Légion, eh bien, j'ai commencé à me re-hyper pour Légion et je fais depuis bien longtemps une émission dédiée à World of Warcraft et aux jeux Blizzard en anglais qui s'appelle The Instance. Et donc, on en parlait un petit peu et je me suis dit, oh bah je vais retourner dans le jeu pour essayer de finir ma quête pour l'anneau légendaire, voir un petit peu ce qui se passe dedans, tu vois, préparer un petit peu la sortie de Légion. Et je suis retombé dessus mais complètement à fond, j'y joue tous les jours, j'ai remonté ma garnison, enfin comment ça s'appelle en français, le fief, remonté, j'avais fait en fait que la moitié, j'avais quitté le truc, je m'en souvenais pas, j'ai entièrement tout refait, maintenant j'ai des petits j'ai des pets, des mascottes qui se baladent partout, j'ai plusieurs de mes bâtiments qui sont au niveau maximum, j'ai fait le haut fait pour voler en Draenor, enfin j'y suis à fond et passe beaucoup de bon temps et en fait le truc dont je me rends compte c'est que j'y jouais un tout petit peu de temps en temps, j'avais limite lâché l'affaire depuis des mois et des mois parce que il y a eu tellement de temps sans mise à jour, sans contenu que c'était, enfin je me rends compte que effectivement, si on doit passer 9 mois ou 10 mois avec juste le contenu qu'il y a, c'est horrible, enfin c'est infernal, il y a rien à faire, ça devient super chiant. Mais pour les quelques semaines avant le lancement de l'extension, en fait, il y a des trucs super sympas. J'ai vraiment apprécié les quêtes pour avoir la possibilité de voler dans l'extension, le fait d'explorer partout, il y a des trucs super beaux, enfin pour 3-4 semaines de contenu, c'est super. C'est juste que pour un mois, pour 10 mois, effectivement, il y a rien à faire et on meurt d'ennui, quoi. Mais moi qui reviens à la fin, c'est sympa. Et puis on a eu la confirmation que le pré-patch pour l'extension arrivait là, il arrive demain. Donc il y a énormément de choses qui changent pour avec ce pré-patch. Et c'est un bon moment pour revenir si vous êtes un joueur de World of Warcraft et que vous vous demandez ce qui s'y passe. Maintenant, vous pouvez revenir à partir d'aujourd'hui, demain. Et il y a énormément de choses qui changent, énormément de choses améliorées. Donc voilà, moi en tout cas, je voulais témoigner de ça parce que comme je le disais, World of Warcraft, c'est un truc qui fait partie de mon histoire de gamer et qui m'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant. J'y joue régulièrement et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc je voulais témoigner de mon retour sur World of Warcraft à tous les auditeurs.
Mais je suis un peu dans ton cas aussi parce que il y a un mois, deux mois, ils nous ont proposé à ceux qui n'y jouaient plus une semaine gratuite. Enfin, ils ont offert Warlords Draenor et une semaine gratuite. et je suis replongé dedans, bah, je me suis replongé dedans pendant une semaine avec ma femme, et c'est vrai que bah, voilà, ça faisait de, moi de, depuis Mist of Pandaria, j'y avais pas retouché du tout. Ma femme encore avant, et on a passé une super semaine à redécouvrir le jeu. C'était voilà, et du coup, comme tu me dis qu'il y a plein de choses qui changent, je peut-être que je vais y jouer un mois avant l'extension.
Ma sortie de l'extension. Bah écoute, je crois que t'es pas le seul, hein, et j'ai autour de moi, c'est anecdotique, hein, mais sur le Slack, le truc de discussion Slack du rendez-vous tech, on est un petit groupe à s'y être remis, j'ai plein d'amis qui s'y sont remis. D'ailleurs, si vous êtes dans le Slack, si vous êtes patriote au niveau qui vous donne accès au Slack et que vous êtes joueur de World of Warcraft, venez discuter avec nous sur le channel Rendez-vous Jeu. On parle pas mal de tout ça. Il y a même des membres du Slack qui sont en train de discuter de la possibilité de monter une guilde pour les jeux. Donc voilà, vous pouvez vous y intéresser là-dessus. Et puis comme je le disais, moi je suis vraiment hypé sur Légion. Donc on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai un petit peu de trucs dont je voulais parler pour les prochains épisodes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les épisodes à venir ? C'est le milieu de l'été. Moi, je vais essayer de prendre 2 semaines de vacances totales où je ne vais pas du tout faire de podcast. Ça va être la première fois depuis un long moment où je vais être vraiment
impossible,
en vacances.
Impossible.
Donc, ce qui va se passer, c'est que il y aura normalement, ça tombe sur 2 épisodes du rendez-vous jeu qui devraient sauter. Mais là, je me dis pas possible sauter 2 épisodes. Donc on va voir ce qui va se passer. Je vais essayer de négocier avec des amis pour vous fournir un épisode quand même au milieu des deux. Donc, il y en aura un au lieu de deux. On va voir comment ça se passe. Je pense que vous imaginez qui ça pourrait être, qui s'en chargerait. Et ça serait vraiment, je file les clés et on voit ce qu'il fait. Donc, peut-être que je m'inquiète un tout petit peu, mais je suis sûr que ça sera bien géré. Mais en plus de ça, comme je vous le disais, je suis hyper hypé par World of Warcraft Légion. Donc, dans quelques jours, attendez-vous à voir débarquer, j'espère, peut-être un épisode spécial sur World of Warcraft et sur l'extension qui arrive, pour essayer de détailler aux auditeurs qui seraient intéressés ce à quoi ils peuvent s'attendre et bien se préparer. Donc, j'essaye de monter ça, on va voir si ça se fait ou pas. Si ça se fait, ça sera, je pense, dans quelques jours. Alors, généralement, ces épisodes spéciaux, j'aime les faire en plus des épisodes classiques, parce que je veux pas supprimer un épisode classique pour parler d'un jeu spécifique, parce que vraiment je veux que le rendez-vous jeu soit une émission qui couvre tous les jeux et l'industrie et pas juste un jeu spécifique. Là en l'occurrence il se trouve que ça tombe au moment des vacances, donc il y aura 2 épisodes qui sont remplacés par un, mais c'est pas parce que je remplace un épisode par le rendez-vous, par l'épisode sur Légion, c'est vraiment, ça c'est un truc à part que je veux faire en plus, et c'est un truc que peut-être que je ferai à l'avenir un petit peu plus quand il y a des jeux qui moi je tombe vraiment dedans et me plaisent énormément et j'ai envie d'en parler un petit peu plus. Je veux pas faire un épisode du rendez-vous jeu, polluer la moitié d'un épisode du rendez-vous jeu classique avec ça. Donc je me dis peut-être que je ferai un épisode spécial de temps en temps comme ça, plus régulièrement, comme ça avait été le cas pour Overwatch. Je voulais le faire pour Street Fighter V, il s'est trouvé que ça s'est pas goupillé finalement, malheureusement, j'étais très déçu. Peut-être que ça viendra un jour, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Mais voilà, bon, le premier c'était Overwatch, le second sera Légion, c'est mon fanboyisme Blizzard qui ressort, mais ça je pense que c'était un secret pour personne, donc ça n'étonnera personne, mais voilà, ça
sinon,
sera peut-être si, quelque chose
si,
qui viendra.
Si tu veux que ça passe crème, tu l'estampilles à Azeroth.fr.
Ah, peut-être, tu sais qu'il y a des idées intéressantes à travailler là-dessus. Mais je n'en dis pas plus. Bon, écoutez, ça va être tout pour cet épisode. Ça sera quand même un épisode du rendez-vous tech, hein. Du rendez-vous jeu, je veux dire. C'est pas Azeroth.fr, c'est compliqué. Mais c'est tout pour cet épisode du rendez-vous jeu. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Avant de se quitter, bien sûr, je donne la parole à Jean pour qu'il nous dise où on peut avoir plus de sa sagesse qui nous envahit dans les oreilles.
Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu me demandes parce que j'ai de l'actu en ce moment. Donc, si vous voulez me retrouver, donc c'est sur le podcast régulier, donc c'est sur Papa à quoi tu joues. Donc, on a le dernier numéro avec Florent Gorge, qui est historien du jeu vidéo, qui est tout à fait passionnant. Mais sinon, on peut me retrouver aussi sur le nouveau podcast que je viens de lancer, qui est Papa à quoi on joue, et qui est une sorte de spin-off de Papa à quoi tu joues, et qui est entièrement dédié aux jeux avec les enfants. Donc là, plus question de Dead by Daylight. Ouais. Donc voilà, donc là, donc c'est principalement jeux vidéo, enfin app et jeux vidéo, mais on s'interdit pas non plus, là comme on l'a fait pour le premier numéro samedi dernier, de parler aussi de petits jeux de cartes, de petits jeux de société, etc. Et pour le premier numéro, il y a Ben de Daddy Gamer Chief qui nous accompagne pour qu'on se lance. Donc voilà, donc c'est Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue. Et on retrouve tout ça sur le site papapodcast.fr. Et sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait comme quelqu'un qui a pris un site pour regrouper toutes ses émissions dessus.
Très très bien, papapodcast.fr. Et bien sûr, les liens vers ton compte Twitter seront disponibles dans les notes de l'émission.
Exactement.
Très bien. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et bien d'autres sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi retrouver, comme je le disais, les liens vers les vidéos des finales de l'Evo, toujours sur frenchspin.fr. Je les mettrai dans les notes de l'émission sur le site. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech et d'autres émissions toujours sur ce site-là. Donc il y a plein de choses à voir et à écouter surtout. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis on vous donne rendez-vous. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est dans 15 jours? Non, parce qu'il va y avoir cette histoire de vacances. Mais donc dans quelques jours pour l'épisode spécial, et puis après vous aurez un épisode encore un petit peu spécial. On verra ce que ça donne. Moi je serai en train de me ronger des ongles d'inquiétude dans mon coin au milieu des arbres de la forêt dans la campagne, donc j'espère que ça se passera bien. On vous remercie.
Il y aura peut-être
beaucoup
des Pokémon là-bas.
Oh, peut-être, c'est possible. Peut-être que je m'occuperai comme ça et que je changerai d'avis sur le jeu. Bon, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous.
Ciao à tous.